Et notre journal présenté par Alexandre Rosset.
Bonjour, une rave party illégale se tient depuis cette nuit sur les hauteurs de Malleret. Environ 2000 personnes seraient sur place, selon la bourgeoisie du village du Jura bernois. Les fêtards ont d'abord tenté de s'installer à Soultz avant d'être délogés par la police jurassienne. Les artistes de la région sont aussi à l'honneur à Dolémont-Bédé. L'illustratrice Léandre Ackermann présente notamment une exposition à la Farbe dans le cadre du festival, une exposition autour du textile. Ils ont sué, mais sont parvenus à conserver leur titre. Jeremy Hunt et Morgan Crozat ont remporté hier soir la course des Franches au Noirmont. Cette manche du trophée jurassien a été marquée par une forte chaleur. Une chaleur qui sera encore au rendez-vous ce samedi. Le mercure atteindra 32 degrés en plaine et 28 dans les Franches-Montagnes. Quelques orages ne sont pas exclus, mais ils seront plus fréquents demain. Des centaines de personnes ont donc envahi illégalement des champs de Malleret après avoir tenté leur chance à Soultz. La bourgeoisie du village du Jura bernois annonce ce matin qu'une rave party réunit plus de 2000 personnes dans le secteur de la Verte Joue. Les premiers fêtards sont arrivés tard hier soir après avoir voulu s'installer dans le village de Haute-Sorne et d'autres affluent encore depuis ce matin à Malleret. La bourgeoisie du village tire la sonnette d'alarme, Michel Léonier.
Il y a des véhicules de toute la Suisse, mais aussi d'Espagne, d'Italie, de Grande-Bretagne et de France, affirme Laurent Blanchard, président de la bourgeoisie de Malleret. Hier soir, après minuit, il est alerté par un défilé de voitures. J'ai tout de suite compris, dit-il. Selon ses informations confirmées par la police jurassienne, la rave party aurait dû avoir lieu à Soultz. Les fêtards ont toutefois été rapidement repérés par la police jurassienne qui est parvenue à les déloger avant qu'ils ne sortent leur matériel. Ils se sont alors dirigés vers le Jura bernois. Avec d'autres personnes, le président de la bourgeoisie de Malleret a tenté d'intervenir, de faire barrage avec des voitures, mais les fêtards ont déplacé les véhicules en les portant, en les endommageant aussi, selon Laurent Blanchard. Dès lors, les possibilités d'intervention étaient limitées. La musique a retenti toute la nuit et c'est encore le cas ce matin. La bourgeoisie est inquiète car les champs sont détériorés et les animaux apeurés.
Et les prochaines heures s'annoncent animées sur les hauteurs de Malleret. On retrouve Michel Léonier.
Laurent Blanchard n'entend pas en rester là. Il affirme que des échanges ont pu être menés avec les responsables de la rave party. Ceux-ci refusent toutefois de quitter les lieux. Ils sont même prêts à nous payer, dit le président de la bourgeoisie, qui ne veut pas de cet argent, mais qui veut voir les fêtards s'en aller au plus vite. Selon lui, la police est revenue sur place ce matin. La préfète s'est déplacée, elle aussi. D'après Laurent Blanchard, une éventuelle séquestration de la Sono est envisagée. Mais si cela était impossible au regard du nombre important de participants, alors les agriculteurs de Malleret pourraient ne pas rester les bras croisés. Ils pourraient procéder à un épandage de purins, selon Laurent Blanchard.
Dolémont-Bédé bat son plein. La 11e édition du festival de bande dessinée se déroule depuis hier dans la vieille ville de la capitale jurassienne. Quelques 50 auteurs et autrices sont de la partie, dont la jurassienne Léandre Ackermann. L'illustratrice présente une exposition à la Farbe, la fondation Anne-Robert Bloch. Elle a décidé de travailler autour d'un thème particulier, Léandre Ackermann.
C'est une exposition sur le thème du textile, qui est un sujet que j'aimerais essayer de creuser en bande dessinée. Et puis j'ai eu l'occasion de le faire suite à une résidence à la Sarrazine que la Farb m'a accordée l'année dernière.
Et justement, vous avez pu développer un peu ce thème, faire certains dessins lors de cette résidence?
J'ai fait certains dessins lors de la résidence, mais j'ai surtout creusé le sujet et beaucoup réfléchi à ce que je pouvais essayer de raconter là-dessus. Et puis j'ai digéré une belle documentation que j'avais accumulée avant de partir.
Qu'est-ce que vous souhaitez montrer autour de ce thème? Quels sont finalement vos objectifs, les thèmes que vous souhaitez mettre en avant?
Clairement, ce que j'aime avec ce thème, c'est qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent et puis on peut parler notamment d'écologie, de la place des femmes dans la société, puisque c'est souvent un travail qui est féminin, celui du textile, pas uniquement, mais en partie. Que ce soit le travail domestique ou le travail industriel, le textile, l'activité textile comme hobby ou comme profession aussi, il y a voilà, plein d'angles comme ça qui peuvent se déployer.
Dolémont-Bédé se tient jusqu'à demain en vieille ville. Différentes animations et séances de dédicaces sont notamment au programme. Un nouvel écrin et des perspectives d'avenir pour la maison de l'enfance de Seignelégier. L'institution a quitté la rue de la Gare en décembre dernier pour s'installer quelques centaines de mètres plus loin, au chemin des Marguerites. L'inauguration officielle des locaux a débuté hier soir et se poursuit cet après-midi avec des portes ouvertes à la population. Désormais, l'établissement se trouve à côté de la résidence Les Marguerites 2 et cela permettra une collaboration plus étroite entre les deux entités, le directeur de la maison de l'enfance de Seignelégier, Kevin Chalet.
Oui, je le pense, effectivement. Les projets intergénérationnels ont toujours eu de l'importance pour nous. Ça fait déjà depuis 5 ans que je suis à la direction et ça fait 5 ans qu'on collabore, que ce soit avec l'hôpital, que ce soit avec les Marguerites. Mais effectivement, étant donné qu'on est plus proche, il faudra qu'on se mette autour d'une table et puis de pouvoir mettre en place des projets communs. On parle de visites à Noël, peut-être de jardins communautaires. Je crois que les enfants apportent beaucoup aux personnes âgées. Je crois que les personnes âgées apportent beaucoup aux enfants. Et si on arrive à trouver une collaboration dans ce sens-là, on va le faire.
La maison de l'enfance de Seignolégier accueille actuellement 170 enfants contre 105 il y a 5 ans. Les nouveaux locaux peuvent être visités de 13h30 à 17h. Le festival de l'ultra-court a rendu son verdict. La 20e édition du concours de court-métrage qui réunit les classes du Jura et de la Berne francophone s'est terminée hier soir avec la remise des prix. Le grand prix est revenu à une classe 2P de l'école primaire de Porrentruy grâce à sa réalisation intitulée Le Dragon, un film qui raconte l'aventure d'enfants à la bibliothèque lors d'un orage. Détails à retrouver sur rfj.ch. Et on reste dans le monde du cinéma avec ce clap de fin pour le Caméra Club Jura. L'association qui avait pour but de promouvoir la création cinématographique amateur a cessé ses activités en fin d'année passée, après plus de 50 ans d'existence. Elle a compté jusqu'à 50 membres lors de sa plus faste période. Le club Ajoulo a produit des films, des documentaires ou encore des émissions pour mettre en valeur la région. Et deux de ses membres ont donné une conférence ce matin au musée de l'Hôtel Dieu à Porrentruy pour revenir sur l'histoire du club. Jacques Desboeuf, secrétaire caissier, nous explique pourquoi le Caméra Club Jura a décidé de cesser ses activités.
C'est une longue histoire qui a commencé en 1970, d'abord avec le format pellicule, et puis ensuite on a vécu toutes les transformations technologiques. Et dans les dernières années du club, on sentait un peu une lassitude et puis un manque de motivation. Et il y avait deux facteurs, donc la participation aux séances du club mensuelles et aussi le problème du renouvellement des personnes.
Pourquoi cette motivation, finalement, elle a diminué, selon vous?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs qui, je pense, a influencé cette motivation, c'est le fait que les médias régionaux sont apparus et elles ont commencé à faire des images, des vidéos que l'on réalisait nous-mêmes et de manière unique.
Il y a cet aspect aussi, peut-être aujourd'hui, tout le monde peut filmer, finalement on voit beaucoup plus d'images que par le passé.
Alors c'est clair que maintenant on est un peu saturé dans un monde d'images, que chacun peut faire sa vidéo avec son smartphone, et je pense que ça contribue aussi à banaliser les vidéos que l'on réalisait à l'époque.
Le Caméra Club Jura a décidé de donner les quelques 400 films qu'il a réalisés au musée de l'Hôtel Dieu. À l'étranger, l'Iran a tiré aujourd'hui de nouvelles salves de missiles contre Israël. Des tirs menés en riposte aux frappes aériennes d'une ampleur sans précédent que l'État hébreu a menées hier contre des sites militaires et nucléaires sur le sol iranien. Israël a par ailleurs annoncé de nouvelles frappes sur Téhéran et menacé de brûler la capitale iranienne. Les derniers bilans font état de 78 morts en Iran et 3 en Israël.
12h23,
RFJ, sport.
Arnaud Tendon prend la 38e place du Grand Prix de Gipingen. Le Vadé a surtout joué le rôle d'équipier dans cette classique qui est la plus réputée de Suisse. Sous une chaleur étouffante, il a épaulé notamment l'Argovien Jan Christen qui a pris une très belle 3e place sur ses terres, derrière le vainqueur américain Nilsson Paules et le Belge Thibaut Naïs. Autre jurassien au départ, Yanis Voisar a abandonné avant la fin de l'épreuve, épuisé par la chaleur intense qui a sévi tout au long de la course. Et de la chaleur, il y en avait aussi hier soir au Noirmont. La course des Franges s'est déroulée dans des conditions très estivales. Plus de 500 athlètes ont participé à cette épreuve du trophée jurassien. Sur la catégorie reine, celle des 9,5 km, la victoire est revenue à Jeremy Hunt. La Joulo a avalé la distance en 34 minutes 45. Il a devancé le courtisan Michael Morand d'une minute 15 et le fils de ce dernier de 2 minutes 23. Jeremy Hunt a d'ailleurs utilisé la concurrence pour se surpasser.
Je suis parti assez fort parce qu'il y a Alexis qui était avec moi dès le début, donc c'est vrai que ça a mis tout de suite des bonnes bases, c'était cool. Après on s'est bien tiré la bourre sur les 2-3 premiers kills, après dans la montée j'ai mis une accélération, il a décroché, puis après j'ai fait ma course jusqu'au bout. Après, avec des conditions, c'est vrai, estivales, on va dire, mais après, voilà, on a un sport d'extérieur, on fait avec les conditions qui vont avec, quoi.
C'est un parcours que vous connaissez bien, vous l'avez déjà emporté ici l'an dernier, ça vous aide dans vos différents temps de passage à réussir à vous situer un petit peu?
Alors honnêtement, aujourd'hui, j'ai vraiment couru à la session parce que, bon, en fait, on a déménagé toute cette semaine avec mon épouse, on a acheté une maison, donc du coup, c'était une grosse semaine de déménagement, je me suis entraîné un peu sur le tas, on va dire. Donc aujourd'hui, le but, c'était vraiment de me mettre dans le rouge, me faire mal. Et puis, j'ai pas du tout regardé la montre, franchement, peut-être une fois ou deux, mais pas plus, vraiment, le chrono, c'est anecdotique.
Chez les femmes, pas de surprise non plus. C'est l'athlète de Courfèvre, Morgane Crozat, qui s'est imposée en 41 minutes 52. Elle a devancé de plus de 4 minutes une autre merga, Vanessa Ellig, et de plus de 5 minutes, Alizé Caroli de Bévillard-Malleray. Morgane Crozat a profité de conditions qu'elle affectionne pour s'imposer et conserver son titre au noir.
J'étais contente d'avoir un terrain sec, puis je pense que j'étais pas la seule. Après, c'est vrai qu'on est passé d'un week-end assez pluvieux à quelque chose de très chaud, mais je pense qu'ici, au Normand, on a gardé encore quelques degrés. Il y a un nuage qui a aussi bien obscurci un peu le départ, donc ça allait encore. Après, je cherchais surtout les sensations et puis juste à faire le mieux possible ce soir.
Techniquement aussi, sur un parcours que vous connaissez bien, ça peut être un avantage aussi pour parvenir à faire un bon chrono.
Oui, alors bon, là, j'avoue que j'étais plus trop sûre du parcours parce que je confonds aussi vite d'une course à l'autre. Mais je pense que ceci est un tracé qui me convient bien, avec un peu de la montée, il y a quand même des bonnes portions de plat. Et puis j'avais quand même cette sensation de pouvoir dérouler moins vite que si j'avais été complètement reposée. Mais j'ai quand même pu avancer comme je voulais et puis avoir des super sensations, alors je suis contente.
Et vous pouvez retrouver tous les résultats de la course des franges sur rfj.ch. À Delémont, on a cumulé les disciplines dans la nuit. Le Domonite s'est tenu hier soir dans la capitale jurassienne. Victoire du Delémontain Colin Chetla qui a avalé les 300 mètres de natation, 9 km de vélo et 3 km de course à pied en 29 minutes 15. Il a devancé Gauthier Monrad de Basse-Cour de 34 secondes et David Sansu de Courant de l'Ain d'une minute 25. Chez les dames, c'est aussi une Delémontaine qui l'a emporté. Camille Borua a gagné l'épreuve en 35 minutes 27 avec 31 secondes d'avance sur Sarah Schafter de Pontruy et 2 minutes 05 sur Léa Cheublin de Delémont. C'est le grand jour pour Grégoire Saucy. Le pilote établi à Glovelier s'élancera à 16h pour les 24 heures du Mans, manche du championnat du monde d'endurance. Grégoire Saucy et ses deux coéquipiers s'élanceront à la 11e position dans la catégorie LMGT3. Le départ sera donné par un certain Roger Federer. En football, le week-end va rendre son verdict sur les talus de notre région. Plusieurs équipes sont encore dans la course pour la promotion ou dans la lutte pour le maintien, alors que la dernière journée des championnats amateurs va battre son plein ces prochaines heures. On fera le point dans nos éditions de demain. En deuxième ligue interrégionale, pas d'enjeu pour le FC Ajoie Montéry. Les Ajoulos se déplacent à Dornard à 18h, avec pour seul objectif de finir l'exercice en beauté. Les meilleurs joueurs du monde s'apprêtent eux aussi à chausser les crampons puisque c'est une nouvelle grande messe du football qui s'apprête à commencer. La Coupe du Monde des clubs est au programme dès demain et jusqu'au 13 juillet. Cette compétition organisée par la FIFA réunira dans plusieurs stades américains 32 clubs issus de tous les continents. Elle va voir le jour tous les 4 ans. Michel Léonier.
Le président de la FIFA n'y va pas de main morte. Gianni Infantino affirme que le football va entrer dans une nouvelle ère grâce à cette compétition qu'il a lui-même envisagée. La Coupe du Monde des clubs réunira de très grosses cylindrées, à savoir les récents vainqueurs des Coupes continentales, ainsi que les clubs les mieux classés sur leur continent. L'Europe sera représentée par 12 clubs, dont les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, Paris, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea. On retrouvera par ailleurs aussi les mythiques clubs argentins de Boca Juniors et de River Plate, ainsi que l'Inter Miami de Lionel Messi. On verra aussi à l'œuvre les ambitieux Égyptiens d'Al Ahly et les Saoudiens d'Al Hilal qui espèrent également briller. Plusieurs clubs ont décrié une compétition qui rallonge une saison déjà surchargée selon eux, mais ils pourront se consoler avec les millions qui les attendent car ce nouveau rendez-vous du ballon rond est particulièrement lucratif.
La Coupe du Monde des clubs commence dans la nuit prochaine aux États-Unis. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous souhaite un bel après-midi. RFJ Sport.